Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Isabelle, Marie et Marie-Jo, bonjour à vous.
Bonjour, bonjour. Cécile.
Oh là là, ça fait du bruit. Quelle image pour notre belle ville d'Angers dans l'histoire. En 1875, l'Université catholique de l'Ouest, première faculté libre de France, ouvre ses portes. L'évêque de Quimper de l'époque décrit la ville de façon étonnante. Angers est une des villes les plus dangereuses pour la jeunesse. C'est une ville de plaisir plutôt que d'études. La vie y est fort légère. Alors aujourd'hui, avec Jürgen Bartelheimer, guide conférencier du patrimoine, on vous propose une visite originale de la ville sous l'angle des écrits qui font sa réputation. En fin d'émission, Marie-Jo nous présente sa chronique littéraire que vous connaissez maintenant. Et on se penche aussi aujourd'hui sur les statues endommagées par le temps ou tristement décapitées aujourd'hui dans nos églises, comme à la Madeleine à Angers. Elles peuvent retrouver toute leur superbe et surtout leur tête grâce au travail patient d'orfèvres de la restauration. Nous recevons aujourd'hui Christine Grenouillot, restauratrice d'art, qui œuvre pour préserver notre patrimoine. On commence tout de suite avec vous Marie, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Christine Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
Comme le disait Cécile, vous faites retrouver leur tête aux sculptures. Pour mieux comprendre, on va faire un petit retour dans le temps, au 13 avril 2023. Et pourquoi le 13? Parce que c'est le lendemain du 12 avril, date à laquelle un homme a détruit plusieurs statues et autres objets religieux à l'église de la Madeleine à Angers. Donc le lendemain, le 13 avril 2023, à la demande du service patrimoine de la mairie, vous vous rendez sur les lieux et que trouvez-vous?
Eh bien, je me suis rendue directement dans l'église avec les personnes de la ville d'Angers et les conservateurs. Et là, eh bien, ça a été vraiment la surprise puisque sur 4 des autels de l'église, toutes les statues avaient été décapitées. Ça a vraiment été un geste de vandalisme et avec cette volonté de casser principalement les têtes de toutes les statues. Alors il y avait des statues qui étaient en pierre, d'autres qui étaient en plâtre, et toutes ces statues, eh bien tous les morceaux, c'était vraiment des milliers de morceaux, étaient par terre. Alors des gros morceaux, des petits morceaux, des morceaux moyens, il y avait vraiment toutes les tailles et c'était le sol en était jonché devant chacun des autels qui avaient été vandalisés.
Alors, savez-vous ce qui a été utilisé pour endommager les statues?
Je pense qu'il s'agissait d'une sorte de masse
en métal,
métal probablement, parce qu'il y a quand même des statues en pierre qui étaient vraiment très importantes et les morceaux qui ont été cassés étaient vraiment très volumineux. Donc, il a vraiment fallu une force et un objet vraiment puissant pour faire ces dégâts.
Alors, pour vider l'aspect fait divers de la question, l'homme avait une 50aine d'années, il a été appréhendé quelques jours après, mais déclaré irresponsable. Il était atteint de schizophrénie. Alors, ce n'est pas le sujet de l'émission. Donc, vous trouvez évidemment ces milliers milliers de dégâts, de déchets. Qu'est-ce que vous faites concrètement durant cette journée?
C'était une journée et concrètement, eh bien, on a rangé dans des boîtes tous les morceaux présents. Alors, on a été extrêmement minutieux parce qu'évidemment, il fallait essayer de pas tout mélanger. Donc, évidemment, chaque zone, on a rangé par zone. Donc, il y avait 4 hôtels qui avaient été vandalisés. Donc, devant chaque hôtel, on est allé avec des boîtes, des bulles packs, des papiers de soie. Et puis, on a emballé chacun des morceaux précisément en essayant de les reconnaître. Alors, si on arrivait à les reconnaître, eh bien, on mettait le nom de la statue, de la tête de la statue qui était concernée, pour faire un premier tri qui après pourrait nous faciliter le travail de restitution.
Vous numérotez ?
Non, on n'a pas numéroté. On n'a pas eu besoin parce que de toute façon, là, il y avait beaucoup trop de morceaux. On a localisé sur les boîtes et sur les sachets, on a noté de quel hôtel ça provenait et puis de quel statue ça pouvait provenir.
Voilà, donc un travail très minutieux, vous n'êtes pas évoquée toute seule.
Non, on était toutes les équipes, des personnes du musée sont venues, des personnes du service patrimoine de la ville, les conservateurs des antiquités objets d'art, donc voilà, on était assez nombreux.
Donc il a fallu, l'église de la Madeleine appartient à la commune, hein,
oui,
voilà,
tout à fait.
Mais elle est affectée au culte catholique romain, donc il a fallu qu'elle serve assez rapidement, donc toutes ces boîtes que vous avez récoltées avec le service du personnel de la mairie, vous avez amené ça dans votre atelier?
Non, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, elles ont été emmenées dans les réserves du musée, le temps que la partie administrative se fasse, c'est-à-dire l'appel aux assurances et puis la décision d'ensuite de restaurer.
Alors vous-même, vous avez fait un travail... À ce moment-là,
voilà, tout à fait. À partir de ce moment-là, on m'a demandé un devis pour estimer le temps qu'il faudrait pour restaurer ces œuvres. Et puis après, le temps que la machine administrative se mette en route, eh bien, les morceaux des statues étaient conservés dans les réserves. Et ce n'est qu'après, quand...
Ça va à votre atelier.
Que c'est venu à mon atelier.
Alors, votre atelier, c'est quand même... Voilà, c'est un peu spécial.
C'est un peu spécial. Là, alors, heureusement, j'ai un grand atelier. Donc là encore, eh bien, j'ai repris j'ai amené l'ensemble des boîtes contenant les morceaux à l'atelier. Et là, j'ai fait des zones, des tables différentes. Et là aussi, je n'ai pas mélangé les morceaux. Par table, j'ai réétalé tous les morceaux pour avoir un peu comme un puzzle. Quand on commence un puzzle, ben, on étale tous les morceaux sur une table. Et puis après, ben, on vient travailler et on vient essayer de restituer, de recoller les morceaux les uns avec les autres.
Alors, c'est recollé comment de la pierre?
Alors, il y avait pierre et plâtre. Il y avait deux matériaux différents.
Ouais.
Donc, en fait, dans un premier temps, j'ai rapproché les morceaux. Je ne les ai pas collés. Quand je les retrouvais, je ne les collais pas tout de suite. Parce que, en fait, quand on a plusieurs morceaux qui sont cassés, il faut être bien sûr qu'il n'y a pas un petit morceau qu'on va pouvoir mettre après, si vous voulez. Si on recolle deux morceaux, donc d'abord je les rapproche et puis ensuite je les colle. Alors, la colle, c'est une colle époxy, une colle qu'on utilise, qui est très solide. Et quand les morceaux sont vraiment trop gros, très lourds, on met entre les morceaux, on met ce qu'on appelle des goujons, c'est-à-dire une tige métallique de laiton on perce chacun des morceaux et ce goujon va permettre de consolider le collage qui doit être très puissant puisque les morceaux sont très lourds.
Donc c'est un long travail de longs mois.
Oui, ça a été un travail de 6 mois. Donc il y a eu d'abord ce travail en atelier pour rapprocher tous les morceaux, les coller quand on pouvait. Et puis une fois que ça a été fait, je les ai rapportés à l'église et là je les ai recollés sur les statues. Une deuxième fois, ça a été une sorte de puzzle parce que voilà, il fallait encore retrouver.
Alors comme vous dites, il y a eu des endroits qui sont détruits en fait avec l'impact de la masse en métal. Il y a de la poudre.
Voilà.
Et est-ce que vous reconstituez à l'identique?
Oui, parce que là, en fait, les zones manquantes étaient vraiment peu importantes, finalement. C'était vraiment des zones... La zone d'impact était peu importante. Donc, du coup, on voyait très bien le volume qui manquait, le petit volume qui manquait. Donc là, effectivement, on le restituait.
Mais est-ce que c'est toujours le cas en restauration? Est-ce que vous avez le droit de reconstituer une statue?
Non, on ne restitue pas forcément. On restitue quand on sait comment c'était. Quand on a par exemple un motif répétitif, s'il y en a une partie qui est cassée, bah, on voit parfaitement comment est la partie à côté, donc là on peut la restituer. Mais si à une statue il manque un bras ou une jambe ou même une partie d'un vêtement et qu'on ne sait pas comment c'était et qu'on n'a aucun document iconographique pour l'utiliser, bah là on ne restitue pas. C'est vraiment là c'est une déontologie, on ne refait pas ce qu'on ne connaît pas.
Et votre colle, est-ce qu'elle tient indéfiniment ou est-ce qu'on peut
Alors, les matériaux qu'on utilise en restauration, ils sont ce qu'on appelle réversibles, c'est-à-dire que on utilise toujours des matériaux qu'on peut enlever s'il y a besoin, pour une raison ou pour une autre, quand on fait une retouche colorée, etc., on doit pouvoir enlever cette restauration pour retrouver
l'œuvre. Pour à l'avenir permettre à un autre restaurateur d'intervenir?
Éventuellement, si on retrouve un morceau ou si on retrouve un document iconographique qui nous permet de refaire la partie.
Alors, on peut aussi donc aller à la Madeleine voir ce que vous avez fait, votre travail.
Oui, tout à fait.
Les Angevins peuvent aussi aller à l'angle de la rue des Aix et de la rue Parcheminerie, parce que vous venez de restaurer là, non pas des statues en pierre et en plâtre, mais une enseigne, une vieille voilà, enseigne en bois.
Une vieille enseigne en bois.
Le Café des Aix.
Voilà, le Café des Aix, c'est la rue des Aix. Et là, c'était le support était en bois et en fait, il y avait une polychromie, donc des couches de couleurs avec l'inscription Café des Aix, restaurant, café, restaurant. Et là, en fait, la polychromie était décollée du support en bois. Il y avait des zones lacunaires. Donc, il a fallu revenir, refixer la polychromie sur le support en bois, refaire des comblements des lacunes, des zones lacunaires dans la polychromie et après faire des retouches colorées pour que le texte et le fond soient restitués.
Alors, est-ce que vous êtes une artiste, Christine ?
Non.
Vous avez fait études d'histoire de l'art, vous avez fait un master en restauration, est-ce que vous êtes une artiste ?
Oui, non, je ne suis pas une artiste. Je suis une restauratrice d'œuvres d'art, mais je ne suis pas une artiste. Ce n'est pas la même chose. Je ne crée pas, en fait. Je ne crée pas. Un artiste crée. Moi, je ne crée pas. Je restitue ce qui a existé avant.
Alors, une grande partie de votre travail est intellectuel, hein, compte-rendu, constat d'état, préconisation de conservation. Et si on veut en connaître plus sur votre travail, il faut se rendre sur votre site christinegrenouillot.com pour en découvrir plus et éventuellement faire appel à vos services.
Voilà,
vous pouvez.
Tout à fait.
Et même on peut si on est un privé et qu'on a une statue à restaurer.
Oui.
C'est tout à fait possible.
Oui, je travaille pour les monuments historiques, les musées et les privés.
Merci beaucoup,
Christine.
Bon, puisqu'ensuite nous partons visiter Angers sous le prisme des écrivains, on va faire une petite pause musicale avec Ridane qui nous interprète Ulysse.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce range.
D'habitude, on visite une ville à travers ses monuments. On va voir le château, on va voir les églises, on va voir la cathédrale. Mais aujourd'hui, on change totalement. On va découvrir Angers, non pas à travers ses monuments emblématiques, mais à travers les écrivains et ce qu'ils nous disent de ce qu'ils ressentent de la ville. Isabelle, c'est votre sujet.
Oui, aujourd'hui, nous partons sur les traces des écrivains qui ont visité Angers, qui en ont témoigné dans leurs livres. Et notre invité Jürgen Bartelheimer, guide conférencier du patrimoine, nous propose une visite d'Angers samedi 15 mars, ponctuée de lectures commentées d'auteurs parmi lesquels Julien Gracq, Anatole France ou Henry James. De grands noms de la littérature, évidemment, mais moi, quand on parle d'Angers, je pense d'abord à Du Bellay et à son fameux vers, et plus que l'art marin, la douceur angevine. Mais alors pourquoi nombre d'écrivains passés par Angers ne partagent pas l'engouement de Du Bellay ? C'est ce que va nous expliquer Jürgen. Jürgen Bartelheimer, bonjour.
Bonjour.
Votre visite s'organise autour de quelques monuments emblématiques, parmi lesquels le château. Lisons un extrait de ce qu'Henry James en dit en 1877 dans son Little Tour in France. Marie-Jo, c'est à vous.
Il est juste de dire que le château d'Angers vaut en lui-même le pèlerinage. Le seul inconvénient est qu'on en a fait le tour en un quart d'heure. On ne peut rien faire de plus que le regarder. Et un bon coup d'œil fait l'affaire. Il n'a ni beauté, ni grâce, ni détail. rien qui vous charme ou qui vous retienne. Il est simplement très vieux et très gros. Si vieux et si gros que cette seule impression suffit et s'installe dans vos souvenirs comme un parfait spécimen de forteresse surannée. Situé à une des extrémités de la ville, il est entouré d'énormes et profondes douves qui, à l'origine, contenaient les eaux de la Maine, de laquelle il est aujourd'hui séparé par un quai.
Alors, Jürgen, pourquoi Henry James n'est-il pas conquis par notre château ?
Ah oui, parce qu'il s'est imaginé complètement différent, quelque chose de différent. Alors, il faut le mettre dans le contexte. Henry James est anglo-saxon, américain, il vit en Europe et il est de culture anglo-saxonne et les anglo-saxons sont un petit peu liés avec Angers par les Plantagenets. Alors il considère que, ouais, il y en a même des anglo-saxons qui disent que le château a été construit par les Anglais. Parce que ils avaient une idée très 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 précise. Henry James aussi connaît une pièce de Shakespeare, King John, qui où l'acte premier se passe sous les murs de la ville d'Angers. Alors il a une idée en tête de une vieille ville romantique et il arrive à Angers et il ne trouve pas ce qu'il attend et il fait aussi un voyage dans les châteaux de la Loire. Et là, il a quand même après aussi une déception que je ressens encore aujourd'hui quand il y a des bus de touristes qui arrivent. Ils sont dans un voyage des châteaux de la Loire et ils voient le château d'Angers. Alors, et quelquefois, voilà, ils avalent un petit peu de travers. Là, ça, c'est un château. On nous a trompés.
C'est pas Chenonceau, hein, on est d'accord.
Non, c'est pas Chenonceau. Alors, et toutes ces attentes ont été déçues. Alors, il ne se pose pas des questions sur ses attentes, mais il fait un petit peu des reproches à la ville d'Angers.
Mais pourquoi, concernant le château, il fait une description qui est quand même faussée à la fin, où il parle de douves qui, à l'origine, contenaient les eaux de la Maine, de laquelle il est aujourd'hui séparé par un quai. C'est faux.
Il n'y a jamais eu d'eau.
C'est faux. Mais alors, pourquoi ? Alors, là, il faut s'observer aussi soi-même quand on est une touriste. Hein. On a une idée et on ne voit pas la réalité, mais on essaie de rapprocher la réalité à l'idée qu'on s'est fait auparavant. Alors,
donc, c'est son imagination qui parle.
Quand il voit un château avec des douves, alors, il s'attend, comme aujourd'hui aussi, il s'attend à ce que les douves étaient remplies d'eau. Alors, il dit ça comme si c'était la réalité.
Alors, si l'on en vient maintenant à Julien Gracq. Julien Gracq, il n'est pas plus élogieux dans La forme d'une ville, écrit un siècle plus tard, en 1985 quand même. Il a même une plume très acide. Écoutons un extrait lu par Marie-Jo.
Centre administratif peu surchargé, plus riche de notaires que d'entrepreneurs, appareil digestif discret de la rente foncière, ces ruelles peuplées de chats dormeurs et de pots de géranium, où à peine entrevoyait-on jadis, de loin en loin, flotter silencieusement la robe d'un prêtre. Intrigue en vase clos, odeur caractéristique de renfermé social, micro-société stagnante et mesquinement conflictuelle. Angers, et non la cité balsacienne, m'a toujours paru être la vraie patrie du curé de Tours.
Ça décape.
Voilà. Alors, Jürgen, savez-vous pourquoi Julien Gracq, qui est l'amoureux de la Loire et de ses paysages, a ce regard si négatif sur Angers ?
Oui, alors là aussi, il faut voir le contexte. Alors, il vient de Saint-Florent-le-Vieil. Le texte vient d'un livre sur Nantes. Alors, le livre « La forme d'une ville » est une éloge de la ville de Nantes. Alors, sur trois pages, il fait vraiment une compte pour faire encore plus l'éloge de la ville de Nantes, vivante, et ainsi de suite. Et il trouve tout ce que Angers n'a pas. Dans d'autres extraits, on le voit qu'il se rend compte qu'il est un petit peu injuste, mais
un peu beaucoup quand même.
Un petit peu, Je le cite. Ils se sont pas vraiment très justes avec la ville, mais il ne peut pas vraiment prendre Angers par rapport à Nantes sérieux comme une grande ville. Alors, il vient, il décrit après aussi comment il s'approche, comme Henry James d'ailleurs, en train. Il s'approche, il vient par la pointe Bushmen, il voit des villas sur la Loire et il s'attend à une ville qui a un petit peu de vie, qui est romantique. Et il voit alors voilà, le centre digestif de la rente foncière. Il voit l'impact de l'église. Alors il décrit après ce que nous appelons aujourd'hui la cité. Et effectivement, après, il a aussi un image littéraire. Et à la fin, d'ailleurs, quand même, ça aussi, c'est assez rigolo, je pensais en venant ici, il dit qu'il ne pouvait pas jamais aussi prendre Angers très au sérieux, parce qu'Angers, à cette époque-là, n'avait pas de tramway. Alors pour lui, une ville,
c'est réparé.
Une ville qui est digne de son nom de ville devrait avoir un tramway. Alors ça aussi c'est un ressenti. Il faut pas le prendre au pas du mot, c'est un ressenti
sur la ville. En tout cas, c'est dommage qu'il n'ait pas rencontré l'évêque de Quimper. On aurait confronté leurs idées.
En tout cas, il avait une très belle plume. Alors, rapprochons-nous maintenant de la maison d'Adam dont Anatole France fait une description savoureuse dans L'Orme du Mail, paru en 1897. Écoutons Marie-Jo nous lire cet extrait.
Mais monsieur de Termondre, président de la Société d'agriculture et d'archéologie, prouve, dans un mémoire solidement établi, que cette maison avait été bâtie en 1488 pour un notable bourgeois nommé Philippe Tricouillard. Les archéologues de la ville, qui conduisent les curieux devant ce logis, leur montrent volontiers, en saisissant le moment où les dames sont inattentives, les armes parlantes de Philippe Tricouillard, sculptées sur un écu porté par deux anges. Bon, Philippe Tricouillard, à ce nom, des rires heureux jaillirent des visages allumés. C'était la joie secrète et l'éternel orgueil de la ville. Cet écu emblématique témoigne de la triple vertu et puissance. Les habitants l'aimaient, ce vigoureux aïeul, leur antique échevin Philippe Tricouillard, qui, à vrai dire, ne leur était connu que par le naturel avantage auquel il devait son illustre surnom.
Bon, alors c'est un passage assez savoureux. Jürgen, est-ce que vous pouvez nous commenter cet extrait ?
Alors là, Angers n'est pas nommé directement. Alors la ville qui est la scène de ce roman-là, elle est toujours indiquée par trois points. Anatole France, par ses ancêtres, connaissait Angers. Ses ancêtres viennent de la région de la Loire. J'ai un petit plan là, mais alors il pour lui Angers ou ce personnage fait un petit peu partie de la ville ou de la société de la Deuxième République, la Troisième République, avec tous les personnages qui font un petit peu la ville bourgeoise de ces temps-là. C'est aussi un roman extrêmement critique.
Sur la bourgeoisie
Sur la bourgeoisie, sur l'antisémitisme, c'est Dreyfusard, toutes ces réflexions-là. Et un de ces personnages qui est ce monsieur de Termondre montre cette particularité et c'est une petite aussi dénonciation des joies un petit peu prudes de la bourgeoisie. Et là, maintenant, la description, quand même, est quelque chose qui est une grande actualité, puisque si on se passe là tout à l'heure devant la maison d'Adam, vous allez voir, il y a énormément de monde qui tourne autour et qui regarde et qui cherche, et notamment
les fameux attributs.
Les fameux attributs viennent d'être
restaurés,
polis. Et ils brillent pas au soleil, puisque ils sont dans un coin où le soleil
ne brille pas.
Ne les atteint pas.
Donc il reste nature.
Voilà, je ne sais pas, il reste intouché par le soleil au moins.
Jürgen, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que tous les extraits que vous avez choisis ne sont pas très positifs pour Angers. Est-ce qu'on a, à votre connaissance, un écrivain qui a fait l'éloge d'Angers ?
Alors, j'y ai cherché, cette réflexion, on me l'a fait. On m'a dit que mais il y a quand même Hervé Bazin. Si vous regardez bien,
non, il n'est pas très positif.
Il n'est pas très positif. Non. Il est parmi les plus féroces. Il est encore plus féroce que. Je cherche toujours. Alors, si des auditeurs peuvent me...
On lance un appel. Vous écrivez à Radio Campus si vous avez un extrait.
Je fais un appel. Mais ce n'est pas vraiment non plus... Je sais pas, dommage. Il y a une citation, je vais aussi, là, lors de mes visites, lire. Des éloges, souvent, ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant cette visite, c'est cette collection de témoignages. Des éloges, souvent, disent beaucoup, beaucoup moins concrètement quelque chose sur la réalité d'une ville. On est... toujours plus précis quand on critique. Une éloge, souvent, est assez vaseuse et pas trop à prendre au sérieux.
Oui, on a moins d'arguments, en fait.
Peut-être moins d'arguments. C'est toujours un petit peu plus poignant si on critique.
Merci, Jürgen.
Merci Jürgen, merci Isabelle. Pour en savoir plus sur la visite du 15 mars, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Office du Tourisme. Je rappelle que la visite coûte 7 euros. Et nous restons en Anjou, cette fois c'est pour la chronique libre de Marie-Jo. On parle d'une écrivaine que les Angevins connaissent peut-être, il s'agit de Catherine Mallard. Elle est modératrice de rencontres littéraires, vous allez m'expliquer ce que c'est. L'automne dernier est sorti son livre, ce livre qui s'appelle « Élu domicile » et qui est publié aux éditions du Petit Pavé, une très belle petite maison d'édition qui est à Saint-Jean-des-Mauvrais et qu'on aime beaucoup. Marie-Jo, parlez-nous de ce livre et pourquoi vous l'avez choisi. Alors, il raconte quoi ?
Alors, il raconte, c'est l'histoire de Constance, qui est une maman qui vient de divorcer et qui vit seule avec sa fille. Donc, elle cherche à se reloger. Et elle tombe amoureuse d'une maison en bord de Loire, dans les années 30, en tuffeau. Elle n'est pas très belle, mais c'est le coup de foudre. Donc, elle se fait visiter la maison par la voisine. Et quand elle rentre, elle est stupéfaite parce que tout est intact. On a l'impression que les propriétaires vont revenir dans la minute. La poussière recouvre les meubles, on trouve les bocaux dans les placards. Tout est là, intact, objets, habits et secrets. Et en fait, commence alors le déchiffrage d'un lieu où, je cite, « sointaient les confidences du passé ».
Alors, sur la couverture du livre, il y a la représentation d'une toile de Paul Klee. Pourquoi, Marie-Jo ?
Oui, j'allais en parler parce que pour moi, ce tableau, c'est le personnage principal du roman. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. La voisine raconte que Paul Lambert, l'ancien propriétaire, c'était un militaire dans la marine, mais il avait une passion troublante qui était la peinture. Et ce tableau... qu'elle trouve dans une pièce, il s'agit de Ad Parnassum, c'est précisément le tableau que Constance aime depuis l'adolescence. Elle est follement amoureuse de ce tableau et cette trouvaille lui coupe le souffle. En attendant, sa fille trouve la maison moche, elle n'a pas envie d'y habiter. sa mère qui n'en rate pas une et qui lui dit sans arrêt, qui lui sape ses projets. Elle lui dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu vas faire dans cette maison? Pourquoi tu ne choisis pas un appartement à Angers, près de ton lieu de travail, qui est le musée des Beaux-Arts? J'ai oublié de vous dire que Constance était conservatrice au musée. Mais Constance se projette. Elle a l'impression qu'elle va vivre une autre vie. Elle va vivre autrement dans cette maison. Or, la fin était patente. En effet, une surprise attend Constance. Et cela prouve que le sort ne manque jamais d'ironie.
Pourquoi vous avez aimé ce roman ?
L'histoire est magnifique, mais j'ai beaucoup aimé le style de Catherine Mallard, qui est très délicat, parsemé de pellicules poétiques et émaillé de dialogues complètement savoureux. L'entretien vinaigré avec sa mère est totalement drôle. L'échange avec le notaire, c'est très, très, très intéressant. Et puis surtout, Catherine Mallard polit ses phrases jusqu'à l'os et cela fait un petit bijou littéraire.
Merci Marie-Jo.
Bon, je rappelle qu'on peut retrouver vos coups de cœur littéraires sur un compte Instagram, Fumée de lecture. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Angers. En Anjou, pardon. Merci à Étienne aujourd'hui pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Et n'oubliez surtout pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.